La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire. Bonjour, nous sommes les élèves de seconde une du lycée Jules Froment. Nous sommes aujourd'hui à la médiathèque Jean Ferrat à Aubenas. Nous sommes accueillis par Madame Gros-Claude, directrice de la médiathèque, qui nous a présenté les 6 professionnels du livre avec lesquels nous aurons rendez-vous tout à l'heure. En effet, avec Madame de Raguenel, notre professeur de français, et Madame Raoux, professeur documentaliste, nous menons cette année plusieurs projets autour du prix littéraire des incorruptibles auxquels nous participons. Nous avons à présent lu 5 livres de la sélection de cette année et nous rencontrons prochainement l'une des autrices à l'honneur qui est de plus ardéchoise, Marie-Vonne Ripert. À présent, vous allez suivre sur plusieurs émissions les interviews des professionnels réalisées par les élèves. Nous avons pu interviewer Marion Weber, archiviste départementale, Claire Poilroux, libraire de la librairie du Tiers-Temps, Sébastien Gaillet, éditeur de cette édition, Sébastien Ébuché, médiathécaire, Zarina Khan, autrice et philosophe, Julie Tirlik, restauratrice du patrimoine. Aujourd'hui, Livio, Matisse et moi-même, Lina, animerons une discussion autour de l'évolution des métiers du livre à l'ère du numérique avec les professionnels ici présents.
Comme nous l'a rappelé tout à l'heure Amandine Gros-Claude, directrice de la médiathèque intercommunale, nous sommes en 2025, dans l'ère dite du numérique, avec une évolution accrue des nouvelles technologies toujours plus développées. Vos métiers s'articulent tous autour d'un objet qui, depuis ses débuts, a fasciné l'humanité, tant par sa connaissance que son art, le livre. Alors, je vous propose la question suivante. Pensez-vous que le livre tend à disparaître par l'accroissement de ces nouvelles technologies de plus en plus présentes dans nos sociétés ?
Oui, donc Claire de la librairie du Tiers-Temps. Alors, au vu du nombre de livres qui paraissent tous les ans, je ne dirais pas que ça a tendance à disparaître. Au contraire, on en reçoit de plus en plus. C'est de plus en plus compliqué de faire des choix, justement, éditoriaux. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui sont écrits, produits et qui sont diffusés. Par contre, il y a de moins en moins de lecteurs. Donc, c'est vrai que c'est une équation un petit peu compliquée. Après, moi, j'imagine pas que le livre papier puisse disparaître parce que c'est, comme on l'a dit, ma passion et mon combat aussi. Et que je pense que le livre papier offre des plaisirs et des intérêts que le numérique ne pourra jamais concurrencer. Mais ce n'est que mon point de vue.
Donc, Sébastien, éditeur et auteur jeunesse. Donc, non. Moi, je pense aussi que le livre est encore une longue vie devant lui. Du moins, je l'espère. C'est vrai qu'il y a une masse énorme de livres en fait, qui est édité chaque année. Hein. On n'est pas loin de 70 000 livres par an. Donc, si on le ramène à 365 jours, vous pouvez imaginer la galère pour les libraires de faire des choix et de lire tout ça. Juste une petite anecdote. Moi, j'écris des livres jeunesse chez Actes Sud. Et la dernière fois que j'ai vu mon éditeur, François, il m'a dit, le problème depuis le Covid, c'est qu'il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Voilà. Mais non, il faut rester optimiste et planter des petites graines de livres dans la tête des enfants, notamment, parce que ça va devenir des adultes lecteurs, bien sûr.
Moi, j'ai envie de rappeler que je suis une grande, grande fan de Eschyle, qui a écrit il y a 2500 ans, et le livre n'existait pas. Et donc, on en a parlé d'ailleurs avec vous, il faut imaginer qu'il avait un petit burin et que dans la pierre, il ciselait chaque lettre. C'est un travail colossal de sculpteur aussi. Hein, l'écrivain était sculpteur. Et que grâce à ces tables de pierre, 7 de ces tragédies sur les 99 qu'il a écrites nous sont parvenues. Donc après, on est arrivé au livre, à l'imprimerie, au livre. Mais ce qui importe, c'est pas tellement le contenant, c'est qu'on puisse défier la mort, en fait, avec ce qui est dans le livre. Et c'est dans toutes les jeunesses du monde, dans les Bibles et autres livres sacrés, ça commence toujours par le verbe. Donc c'est cette parole qui va prendre des formes, table de pierre, et puis heureusement pour toi, tu n'as pas à restaurer les tables de pierre aujourd'hui, mais les livres. Et en fait, j'ai envie de dire que ça, ça ne peut pas disparaître, parce que c'est l'âme même de l'humanité.
De manière peut-être plus contemporaine, le livre numérique existe depuis 1977. On a 40 ans de recul, bon, il a connu son essor avec Internet, mais les deux coexistent en même temps. Donc moi je pense qu'ils continueront à coexister pour plein de raisons, toutes les raisons qu'on a évoquées, et les bibliothèques continueront de proposer les deux.
Et peut-être ajouter par rapport à l'intelligence artificielle que grâce au livre, l'intelligence artificielle existe. Parce que s'il n'y avait pas de livre, elle n'aurait aucune matière.
D'après vous, le numérique n'est absolument pas une menace pour le livre. Il peut très bien continuer de coexister sans menacer votre métier, qui peut-être est pour vous éternel.
Je ne vais pas trop parler des livres, mais... Parce que moi, donc, pour ceux qui, donc, je suis aux archives départementales, mais je travaille pas à la bibliothèque des archives, je travaille à la médiation. Donc je me sers, mon matériau, c'est les archives. Alors certes, des fois, je vais dans les livres, mais je m'imaginais, donc moi, je fais de la médiation, par exemple, et je fais les visites guidées, des expositions. Et de temps en temps, je me prends à ne pas rêver, parce que ça ne me fait pas rêver, mais à me dire, ah, tiens, il y a un robot qui va me remplacer. Il va faire les visites. Sauf que moi, quand je fais une visite commentée, eh bien, ça m'arrive même le jour même de la visite, je me dis, ah là là, mais il y a un document, il faut absolument que je leur montre. Donc je vais le chercher. Et je ne sais pas, après, je suis peut-être très naïve, j'en sais rien, mais je me dis que le robot, il ne va pas penser à aller chercher tel document. Il va avoir l'information qu'il aura effectivement trouvée dans les livres. Voilà. Mais ce petit document en plus que moi, je tiens à montrer... Ben, y a que moi, en fait, qui sais lequel je vais aller chercher. Et je suis pas sûre que le robot me remplace totalement. Voilà. Mais j'essaie de me rassurer, en fait. Après, les archives, il y a une grosse partie où effectivement, il y a ce qu'on appelle des archives nativement numériques. Donc, elles sont pas sur des livres, en fait. Donc là, on les stocke. Et le numérique, de toute façon, les gens pensent que les archives, tout est numérisé. Je pense qu'on doit être à 1% de notre masse à être numérisé. Parce que la numérisation, ça coûte cher, ça demande des moyens matériels, des agents, etc. etc. et on ne l'a pas forcément. Pour l'anecdote, hein, les gens ils pensent que quand ils cherchent un ancêtre, ils nous envoient un nom, une ville, une date, vous pouvez m'envoyer l'acte. Non, en fait, on n'a pas une base de données avec... voilà, on va chercher dans les registres. Voilà. On n'est pas encore à l'ère tout numérique.
Peut-être un petit mot en tant qu'éditeur, la crainte du numérique, moi je contourne en fait en me disant, donc je suis un tout petit éditeur, hein, mais l'idée c'est pas de faire beaucoup de livres, mais essayer de faire des livres de qualité et qui rencontrent le public. Voilà, c'est vraiment ça. Donc c'est vrai qu'il y a sans doute beaucoup trop de livres qui sortent, mais voilà, et après il faut de tout pour, enfin il faut satisfaire tous les goûts, mais on peut dire pareil dans le cinéma en fait, hein, c'est un peu pareil, il y a énormément de films qui sortent, un film en remplace un autre, et voilà. Et en tant que la plus en tant qu'auteur, donc le numérique est une source vraiment très intéressante pour les auteurs. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mami Fatou, la catcheuse de Kinshasa. Donc, Kinshasa en Afrique. J'ai jamais fait de catch, j'ai jamais été à Kinshasa. Et j'ai pu écrire un livre qui plaît aux enfants, a priori. Et bien, ça, c'est grâce au numérique, en fait. Hein. C'est en allant chercher, en se documentant. C'est un outil vraiment formidable quand il est bien utilisé.
Oui, moi je voulais juste vous dire que pour moi, qui suis donc Julie restauratrice de livres, moi je rejoins plutôt les problématiques des archives. Et effectivement, en fait, les ouvrages et les archives physiques continuent à être conservées. Et parfois, même si on a des images numériques qui sont de bonne définition, rien ne remplace la matérialité. Et parfois, on va quand même aller chercher de ce côté-là. Et effectivement aussi, par rapport au numérique, on a aujourd'hui des technologies qui nous permettent d'avoir accès à des informations sur des documents via la photogrammétrie, par exemple, qui est une technologie qui permet de prendre plein de prises de vue d'un document, par exemple un parchemin dont je vous parlais tout à l'heure, qui c'est des matériaux en fait qui vont vraiment se déformer et sur lesquels nous on va difficilement pouvoir agir parce que le matériau est trop dégradé. Et en fait avec cette technique on arrive à refaire des remises à plat virtuelles, donc c'est quelque chose qui apporte aussi, qui contribue à la connaissance de certains documents, parce que sans ça on n'arriverait pas à avoir accès au texte. Donc voilà.
Et moi je voudrais rappeler que le numérique dépend de l'électricité. Ayant travaillé dans pas mal de pays en guerre, la première chose qui disparaît quand on est en guerre, c'est l'électricité. Et en particulier à Sarajevo, où j'ai travaillé dans les abris avec des adolescents qui n'avaient plus d'école, plus de lycée, plus voilà, il n'y a plus rien, à part un abri et plus de bougies. Et en fait, le temps qu'il y a eu, où il y avait encore des bougies, les gens les ont utilisés à apprendre par cœur des extraits de livres. C'est extraordinaire. Vous êtes affamé, au bord de mourir, vous avez perdu votre père, votre frère au front, et tout à coup, ce qui demeure, ce qui est une nécessité, c'est d'apprendre un morceau de livre, parce qu'on sait qu'à un moment, on n'aura plus de bougies, qu'on ne pourra plus lire, et que donc, c'est notre mémoire qui va pouvoir lire à d'autres. Et quand j'ai vu ça, moi j'y allais pour faire un atelier d'écriture avec des jeunes et de théâtre, et je me suis rendu compte de l'importance pour eux du livre, que je ne mesurais pas avant. Et je me suis dit, ce qu'on va écrire ensemble, on a écrit une pièce en 5 jours qui s'appelle Le Dictionnaire de la vie, il faut l'éditer, il faut que ça devienne un livre. Et donc ce livre est reparti chez eux. Et là, j'ai eu, je crois, la plus belle phrase que j'ai jamais entendue sur le livre. C'est Mustapha, l'un d'eux, qui m'a écrit. Lorsque je n'en peux plus, je prends notre livre, je le regarde et j'imagine quelqu'un en France qui l'ouvre et qui le tient sur ses genoux. Et alors, je me sens bercée par l'autre.
Merci pour ce très beau témoignage, et ça me fait penser à quelque chose de personnel. Moi, je lis beaucoup de fiction post-apocalyptique, peut-être que vous pratiquez ça aussi, et j'ai quand même constaté que toujours à un moment donné dans ces fictions, le livre apparaissait comme un refuge et comme quelque chose qui perdure. Alors peut-être que moi je l'ai remarqué parce que ça me conforte dans ma conviction, mais en tout cas c'est quelque chose de présent dans toutes ces fictions. Voilà, le livre qui continue en fait, qui permet de survivre et même plus en fait, de restaurer l'humanité, de la conserver, de conserver aussi des connaissances, de les partager. Enfin voilà, ça m'a évoqué ça.
Maintenant je vais vous parler de l'évolution du support de lecture. Donc je vais vous parler de la matière du livre qui était potentiellement menacée par le numérique, parce que d'après le Conseil national du livre, il y a un jeune sur 3 qui ne lit pas dans le cadre de leurs loisirs. Et on a aussi constaté qu'il y a 44% des jeunes qui souvent lisent des livres audio, des podcasts, etc. Du coup, je vais poser une question qui s'adresse plutôt vers Madame Kahn. Est-ce que vous pensez que votre métier va évoluer et s'adapter aux nouvelles générations, ou il va rester comme il l'est à présent ?
Alors c'est drôle de dire métier, je crois que quand on écrit, c'est plus qu'un métier, c'est notre être qui est en mouvement, en fait, dans l'écriture. Donc bien sûr, oui, tout évolue, tout s'accélère en ce moment. Moi, je ne pense pas que nos métiers sont menacés. Il n'y a pas de menace, parce que l'humanité, depuis le début du monde, a trouvé les outils pour se relier. Donc, je n'ai pas peur. L'écriture, elle sera toujours là. Elle va prendre différents contenants, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'on est parti de la table de pierre et qu'on est arrivé au livre, on va aller plus loin dans d'autres formes que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Voilà, on est encore le numérique nous paraît être le futur, mais je pense que très vite, on va encore inventer d'autres choses qu'on ne peut même pas imaginer. Mais ce qui importe, c'est que le livre, en tant que contenu, existera toujours, parce que sans lui, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de reliance.
Et du coup, une dernière question pour Monsieur Gaillet. Est-ce que vous pensez que du coup votre métier il va se transformer, etc. Est-ce qu'il existera encore de la même manière qu'au jour d'aujourd'hui, dans les années futures?
Alors, moi, mon travail d'éditeur, en fait, c'est un métier assez récent, hein, puisque moi, j'ai repris une maison d'édition en 2022, donc il y a 3 ans. Je n'ai pas forcément un très grand recul, mais je me dis qu'il y a de toute façon qu'il y a quand même toujours de la place pour le livre. Moi, j'ai fait le choix, je n'ai pas de livre. Les ouvrages que j'édite ne sont pas numérisés, en fait, donc il n'y a pas de version numérique. Et j'avoue que ça ne m'intéresse pas forcément. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est pas des choses que j'ai envie de développer, en tout cas. Je vais faire un parallèle, en fait. Tout le monde a dans sa poche un téléphone portable et fait des photos, des milliers de photos. Et en fait, ces photos, elles restent souvent dans un téléphone. Des fois, elles sont téléchargées sur un ordinateur. Mais elles ne sont jamais imprimées, en fait. Je fais le parallèle avec le livre, en fait. Effectivement, le livre numérique, on peut le trouver sur des tablettes, on peut le lire. Mais à un moment, l'objet livre, de l'avoir dans les mains... Ouais, moi, je fais des livres, plutôt des beaux livres. Ce livre sur les arbres, on est sur une couverture cartonnée. Il y a une qualité des photos. Il y a un travail de mise en page. Il me semble qu'en restitution sur un écran, c'est pas du tout la même chose. D'avoir ce livre qu'on pose, qu'on le reprend quand on veut, on lit un passage, on peut même écrire, mettre des commentaires à côté. J'ose espérer que le livre, et moi j'y crois, et je continuerai à faire quelques beaux livres par an.
Maintenant, je vais vous parler de l'accès à la lecture, qui est maintenant facilité par le numérique, comme avec les liseuses notamment, ou même les sites web, donc comme application par exemple Wattpad, qui est un site canadien qui organise les Wattis. C'est pour les nouveaux auteurs, pour qu'ils présentent leurs livres, etc. Donc tout ça, il rend la lecture vraiment beaucoup plus accessible. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas?
En fait, ce sont des outils, mais je ne suis pas sûre que ça rende la lecture plus accessible, en fait. Parce que les liseuses, tout le monde n'en a pas forcément. Les livres numériques, il faut arriver à se les procurer. Donc je ne suis pas certaine que ça soit une facilitation. En fait, je pense aussi que avoir un accès infini à tout, ça peut parfois être plus compliqué en fait que de, enfin, pour arriver à choisir. Alors que aller se faire conseiller, avoir un parcours un peu personnalisé de lecteur avec un bibliothécaire ou une libraire ou quelque, enfin voilà, ou des gens qui nous conseillent, ça va peut-être être plus facilitateur que d'avoir accès à tout mais sans aucun repère.
Oui, je pense que c'est un nouvel outil qui va nous amener aussi au livre. Et moi, j'ai envie de faire part de voilà, ce petit livre que Christelle a posé là. C'est un texte que j'avais écrit et qui était sur mon site, donc en numérique. Et un éditeur l'a lu sur le site et a dit « je veux en faire un livre ». Donc ça peut aussi aller complètement à l'inverse de ce qu'on est en train de dire. Lui, il voulait que ça devienne de la matière. Qu'on peut toucher avec des photos. Voilà, donc c'est juste un outil. Je pense que ça ne menace en rien l'art que vous faites, que nous faisons. Puisque Marion est aux archives, elle sait que depuis toujours, l'être humain voulait partager avec la postérité et que le livre, c'est vraiment l'élément fondateur du partage avec la postérité, puisqu'on ne sait pas combien de temps nous aurons de l'électricité et du numérique. il n'y aura que le livre, peut-être dans un temps qui viendra. Et c'est pour ça que lui donner toute sa place aujourd'hui est extrêmement important.
L'accessibilité, c'est le cœur du métier de bibliothécaire. Et les bibliothèques proposent, que ce soit sous forme numérique ou sous forme à papier, donne l'accès au texte. Et comme on l'a rappelé, moi ce que j'entends de tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a vraiment le texte, avec sa force, qui trouve une matérialité sous différentes formes. Le numérique, ça reste une matérialité. La liseuse, on peut dire que c'est la matérialité du texte numérique. C'est comme ça qu'il se matérialise. Ça peut être un téléphone, ça peut être un comédien qui enregistre, en fait, un lecteur qui enregistre le texte et qui lui donne une matérialité avec sa voix. Et pour une personne qui n'a pas accès au livre papier parce que la personne voit mal ou est complètement aveugle, eh ben, elle a accès soit par le braille, mais ça c'est une chose, soit en fait par la voix. Et donc toutes ces matérialités-là existent, ça fait circuler le texte, des fois en fait le mettre en voix, en faire autre chose, et ben ça donne un accès à d'autres publics, à d'autres personnes. Il y a des personnes qui, à partir d'un texte aujourd'hui qui est écrit, il va y avoir une déclinaison en bande dessinée, il va y avoir une déclinaison au cinéma, il va y avoir une déclinaison dans un jeu vidéo. Et c'est aussi, ça vient travailler toutes ces choses-là. Et c'est l'envie aussi de partager. Et moi, je voulais dire aussi que les médiathèques sont des lieux. Le texte aussi se partage par la rencontre, par la discussion, par la circulation. Et donc, tout ce qui permet ces choses-là, on les prend, en fait, c'est très bien. Et ça vient modifier, effectivement, des pratiques, ça vient, en fait, enrichir. Si, effectivement, un site internet où des textes sont publiés gratuitement amène des lecteurs, amène une communauté de lecteurs, très bien, c'est une entrée vers le livre, en fait. Et ça vient à côté, il y a d'autres personnes qui tiennent à venir dans une bibliothèque, dans une médiathèque. D'autres personnes, il y a des personnes qui ne souhaitent lire que des livres neufs. J'ai rencontré une fois une personne comme ça qui ne venait pas en bibliothèque parce qu'elle voulait ne lire que des livres neufs. C'est des pratiques différentes. Et toutes ces pratiques, en fait, ramènent vers le texte et vers ce que les œuvres racontent, en fait.
Aux archives, on considère que le livre, effectivement, est important puisque le but de la bibliothèque des archives, c'est une bibliothèque patrimoniale. C'est-à-dire qu'en fait, ma collègue, elle est chargée d'acheter, ou après, elle peut recevoir en don, d'acheter tous les livres qui concernent l'Ardèche, qui sont édités en Ardèche et qui parlent de l'Ardèche. Et l'idée de ça, c'est qu'on garde ces livres-là à vie, en fait. Et donc, on a des livres qui datent, qui sont un peu avant l'imprimerie. On a des livres du 15e, 16e, jusqu'à aujourd'hui. Mais peut-être qu'un jour, effectivement, il y a 30 000 livres dans notre bibliothèque. Ça occupe tout le 6e étage. Mais un jour, il y aura peut-être un rayon, je ne sais pas comment, avec des livres sur tablette, enfin numérique. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais l'idée, c'est de garder cette bibliothèque, c'est de garder la mémoire écrite du département. Donc, pour l'instant, le livre est considéré comme important.
Pour terminer sur les supports du livre, on a par exemple, lié au site web, des abonnements, par exemple 10 euros par mois. Et ça va donner une accessibilité à quand même beaucoup de livres. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce que l'auteur, finalement, il va gagner, vu qu'il y a beaucoup de livres, comment ils vont se partager 10 euros par personne? Madame Kahn, qui est auteur, pensez-vous que les droits d'auteur vont baisser au niveau économiquement, etc.
Alors, c'est une des choses qui avait sidéré le petit groupe qui m'a interviewée. C'est que, par exemple, sur la trilogie du roman vrai de ma vie, où j'avais un bon éditeur, il m'a proposé 10%, ce qui est le meilleur contrat possible pour un écrivain. C'est-à-dire que quand un de mes livres se vend 20 euros, je touche 2 euros. J'ai mis 7 ans pour écrire cette trilogie. Voilà. Et je touche 2 euros par livre. Et Sébastien sait qu'un contrat à 10% est un bon contrat pour un auteur. Donc c'est le métier le plus mal payé du monde. Et ça, je crois qu'il faut que vous l'entendiez. C'est-à-dire, il y a quelque chose en l'être humain qui le pousse à écrire et qui n'est jamais d'ordre économique. Or, nous avons besoin de vivre en tant qu'auteur aussi. Donc, on va trouver des feintes, chacun va trouver dans son parcours comment gagner sa vie en enseignant, en faisant des conférences qui sont payées, en faisant, voilà. Mais c'est un métier, étrangement, dans cette société où l'argent est quand même majeur, c'est un des rares métiers qui n'est pas mené par l'argent. C'est-à-dire que ce sont des métiers où qu'on ne va pas faire pour devenir riche. La richesse, elle est bien ailleurs et elle est tellement importante, cette richesse qui nous est donnée, mais elle n'est pas monétaire.
Ouais, moi, j'ai la double casquette éditeur-auteur, donc je peux dire, effectivement, je confirme que 10%, c'est un très bon pourcentage, que celui qui gagne le moins d'argent sur un livre, c'est l'auteur. Moi, en tant qu'éditeur, donc je donne 10% aux auteurs avec qui je travaille, et je donne 30% aux revendeurs du livre, donc à Claire, quand elle me revend un livre. Et si je veux que mes livres soient diffusés au niveau national, parce que là, moi, on a un modèle très artisanal, donc c'est nous qui... On met les livres avec ma femme dans la voiture et on fait la tournée des libraires, des maisons de la presse, des endroits où il y a nos livres. Et si je veux prendre un diffuseur, je vais devoir lui donner 25%. Donc c'est aussi cette réalité-là de la filière du livre. J'ai deux livres chez Actes Sud là, qui ont été en version numérique. Et donc il y a un comédien en fait qui lit les textes. Et donc j'ai eu un contrat, donc un nouveau contrat avec Actes Sud spécifiquement là-dessus. Et au niveau des pourcentages, déjà de toute façon les pourcentages, j'en ai pas 10% hein, chez Actes Sud. On est plutôt à 8-9% et qui est partagé s'il y a des illustrateurs. Moi, j'écris des livres pour enfants, donc ça veut dire que s'il y a un illustrateur, ben, l'illustrateur, on partage les frais. Donc c'est plutôt 4-4,5%. Et sur les livres numériques, c'est 3%. Donc ça veut dire qu'on est... c'est vraiment inférieur. Et c'est pareil dans la musique. Hein. Je sais que... J'ai des amis qui ont des groupes de musique et les plateformes type Deezer, ce qui revient aux artistes est beaucoup moins important que ce qu'ils gagnaient en vendant des CD. Économiquement et tout ça, c'est encore les auteurs qui sont pénalisés sur ce nouveau modèle économique.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses et vos témoignages qui étaient fascinants. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue.
On remarque souvent parmi toutes ces évolutions de la génération numérique des changements dans les processus et les pratiques plutôt quotidiennes. Prenons deux exemples. Premièrement, entre 1990 et 2000, on observe beaucoup d'informatisation dans le milieu de l'archivage. Et beaucoup de changements. Madame Wieber, vous qui êtes archiviste, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que ces changements impactent sur votre métier ?
Le problème, c'est que je ne suis pas liée archiviste. Donc, je ne m'occupe pas des archives numériques. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Après, ce que je peux dire par rapport au numérique, c'est que pour préserver... En fait, là, on est dans un thème de préservation et de conservation des archives. On a beaucoup numérisé ce que les lecteurs, les chercheurs venaient voir aux archives en général. Donc c'est plutôt les registres pour faire leur généalogie, pour faire simple. Donc la plupart des registres d'état civil, par exemple, sont numérisés. Donc ça veut dire que un lecteur qui vient en salle de lecture, maintenant, je sais pas moi, un acte de naissance de 1890, il va le voir de façon numérique. Il ne verra plus le registre. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a des archives qui sont nativement numériques. On en a mis quelques-unes sur notre site. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais voilà, de toute façon, ça va arriver un jour. Hein. Mais encore une fois, nous, on a 1% de... Enfin, ça demande de l'argent, ça demande du temps, parce qu'il faut quand même scanner les pages, etc. etc. Donc ça ne sera pas tout de suite, quoi. Et puis moi, puis en plus, à titre personnel, je ne devrais pas le dire, hein, mais effectivement, je préfère aller voir un parchemin en vrai que sur un écran, ne serait-ce que par, ou une archive, ne serait-ce que par rapport à la taille du document. Il y a des documents, on les voit en image, on ne sait pas quelle taille ils font, on ne sait pas comment ils sont, on ne sait pas la matière, tout ça. Et quand on le voit en vrai, bah, c'est autre chose.
Prenons un deuxième exemple. Depuis 1876, Melville Dewey nous fascine avec sa classification périodique du savoir. Cependant, aujourd'hui, cette classification est mise à l'épreuve et argumentée et aidée par toutes ces évolutions technologiques. Monsieur Ébuchet, pouvez-vous nous dire ce que les technologies améliorent dans une médiathèque et qu'est-ce que ça impacte dans son fonctionnement ?
Ce que ça améliore, c'est la rapidité de l'information. C'est-à-dire avant, quand tout était sous format papier et qu'un lecteur nous demandait de trouver un livre en particulier, il fallait chercher les fiches, regarder des mots-clés qui renvoyaient à des emplacements physiques et aller chercher ensuite les documents. Aujourd'hui, on tape le mot-clé ou plusieurs mots-clés dans le logiciel qui nous sort un certain nombre de titres et qui nous donne un accès plus rapide à cette information-là. On peut en plus avoir, sans aller chercher le livre sur les rayonnages, avoir les résumés, avoir faire rebondir en fait sur un moteur de recherche pour avoir un peu plus d'éléments concernant la biographie de l'auteur. En fait, ça améliore le conseil que l'on peut donner. Le lecteur peut être autonome aussi. Il peut lui-même faire la recherche et puis faire ses propres liens entre les textes. Et là, la troisième chose importante qui arrive et qui va arriver avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on passe une partie de notre temps à écrire et à renseigner tous ces éléments-là dans le logiciel pour ensuite pouvoir les retrouver. C'est possible que dans le futur, l'intelligence artificielle soit une assistance en fait à cet endroit-là et que ça nous fasse gagner du temps, parce que ce travail-là est long, que ça nous fasse gagner du temps pour faire d'autres choses, être sur d'autres missions et pouvoir en fait animer en fait ce qui est important dans la promotion du livre. En fait, nous, on est en bout de chaîne du livre et on a aussi ce rôle-là de pouvoir offrir tout ce qui semble important et ce qu'un lecteur pourrait chercher sur un territoire donné. Et ça, d'une bibliothèque à l'autre, ça change parce que les habitants ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes.
Merci de l'avoir évoqué. Et donc, bien sûr, comment parler de société numérique sans parler d'intelligence artificielle ? C'est dans la bouche et ces mots résonnent chez tous les jeunes. Tout de même, aujourd'hui, un élève sur deux, selon les statistiques, utilise l'intelligence artificielle à des raisons scolaires, pour souvent qu'elles fassent tout à leur place. Pouvez-vous me donner un avis sur l'essor de ces nouvelles technologies ? Est-ce pour vous plutôt un enjeu ou dans une moindre mesure un danger ?
Donc moi, vous aurez sans doute compris que je suis assez attachée à des valeurs du passé et que la nouveauté ne m'enchante pas toujours, enfin que j'ai une certaine méfiance. Pourtant, j'ai été amenée à... Enfin, au départ, quand on me disait intelligence artificielle, alors dans le domaine du livre, par exemple, je sais que ça peut être utilisé pour fabriquer des images. Et moi, je travaille beaucoup avec des livres d'images, que ce soit des illustrations ou des photos. Et donc, j'étais extrêmement méfiante et j'ai été amenée à revoir un peu mon jugement parce que j'ai vu notamment un photographe qui s'appelle Eric Tabucchi, qui produit une photographie documentaire, notamment à travers la France, un travail que j'aime beaucoup et que je suis, et qui a expérimenté une IA, je ne sais plus laquelle, pour fabriquer des images, donc en la nourrissant avec ses propres images. Et j'ai été bluffée par le résultat, parce que c'était des images extraordinaires, qui n'auraient pas existé sans son travail, sans son regard, sans ce que lui donnait, en fait, ordre à la machine, on va dire. J'ai pu voir que ça pouvait être un outil extraordinaire. Et puis, j'ai trouvé sa démarche intéressante de se dire, au lieu de simplement le rejeter, se désespérer en disant, les IA vont nous remplacer, on ne servira plus à rien. Ils pouvaient s'en emparer et en faire quelque chose. Donc ça, ça m'a amené un peu à changer mon regard. Et d'autres, enfin, j'ai vu après par la suite certains auteurs de BD, par exemple, qui vont s'en servir pour faire les décors ou pour se faciliter la tâche sur certaines choses. Voilà, donc méfiance, mais un petit peu tempérée parce que je veux quand même vivre avec mon temps. Voilà.
Alors moi, au quotidien, j'y suis peut-être, je suis peut-être la moins confrontée à tout ça, mais c'est vrai que voilà, ça, c'est pas quelque chose que j'utilise moi-même, mais effectivement, dans certaines spécialités, dans la restauration du patrimoine, ça peut être un outil intéressant, notamment pour des restitutions de parties manquantes sur des objets, en mettant en lien plusieurs images qui sont dans des bases de données, on arrive parfois à reconstituer des éléments de sculpture, par exemple, ou des choses comme ça. Et dans ces cas-là, voilà, c'est un outil qui peut quand même être intéressant à ce niveau-là. Mais voilà, moi, je n'y suis pas confrontée au quotidien, on va dire.
Je voudrais juste rappeler que ça s'appelle intelligence artificielle. Voilà, donc... on n'a absolument pas à se sentir menacé par de l'artificiel, parce que sans notre intelligence, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc soyons, comme c'est un outil de plus, comme toute l'humanité a élaboré des outils depuis qu'elle existe. Et donc personne ne s'est alarmé de la naissance des tracteurs, on aurait dû pourtant, mais bon. On ne l'a pas fait. Et tout à coup, on s'alarme alors que ce n'est qu'un outil sur la route des outils que l'humain élabore.
Je trouve juste, petite remarque, ce débat très intéressant puisque la notion même d'intelligence, c'est un réseau d'informations totalement neuronales et on a transformé ce réseau en un réseau électrique. En fait, on a juste changé de pôle d'information qui passe d'un humain et son cerveau très complexe à une informatisation totale du processus.
Donc moi je vais m'occuper de la conclusion, merci beaucoup pour vos réponses. Donc on trouvait important de rappeler que eh bien, cette ère numérique c'est peut-être un petit peu qu'un passage finalement, comme on a par exemple sur le vinyle qui était très à la mode à l'époque et qui revient de plus en plus maintenant. Donc on pense que le numérique ça sera un petit peu la même chose parce que le papier... ce sont quand même des saveurs sensorielles que le numérique ne pourra jamais reproduire. On trouvait aussi important de préciser que ces métiers du livre, qui sont les vôtres, sont un héritage, quelque chose de beau et avec une potentielle évolution, comme tout. Voilà, on va conclure. On vous remercie tous les six d'être venus à notre rencontre, d'avoir pu nous écouter et répondre à nos questions par les petits entretiens en groupe. Et par cette discussion globale. Merci beaucoup.
Merci. Au regard de ce que vous venez de dire, je veux bien avoir le mot de la fin, c'est que les deux prochains services que la médiathèque propose à la rentrée à partir de septembre, ce sont des vinyles et un service IA, tourné vers le passé et vers l'avenir.
Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Donc, nous venons de vivre une matinée très riche aux côtés des professionnels du livre qui ont su répondre à toutes nos questions. Nous avons été un peu stupéfaits et surpris en bien, évidemment, car ils ne sont pas inquiets de l'avancée du numérique pour leur métier. Le papier sera irremplaçable. Voilà la phrase qu'ils ont répétée à plusieurs reprises. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cette petite émission. Nous remercions la radio locale InfoRC. Nous devons remercier particulièrement Christelle Borel qui est venue dans notre établissement pour nous expliquer tout le montage. Nous remercions Madame de Raguenel, professeure de français, ainsi que Madame Raoux, professeure documentaliste, et surtout Madame Gros-Claude, directrice de la médiathèque Jean Ferrat Aubenas, de nous avoir accueillis. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous et continuez à écouter les programmes d'InfoRC.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.